Wow, c'est quelque chose de merveilleux. Gloire à son précieux nom. Bien, comme on a débuté la semaine dernière, nous réunions le mercredi soir pour toute l'Assemblée. Et on vous remercie d'être là ce soir. Et on voudrait que de mercredi en mercredi, notre foule grandisse parce qu'on a besoin d'une réunion au milieu de la semaine. Et tout le monde dit Amen. On a besoin de faire un relais entre chaque dimanche. Et puis, le mercredi soir, c'est bon de venir dans sa présence et être instruit dans la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Comme on a mentionné, le mercredi soir, on veut vraiment faire une étude biblique. Et je vous encourage soit à vous procurer les enregistrements qui sont faits ou prendre des notes, ou peu importe, c'est bon de pouvoir fouiller. Ce qu'on vous donne le mercredi, en réalité, c'est juste pour vous provoquer à fouiller davantage la parole du Seigneur et recevoir la révélation de Dieu. Les mercredis soirs également, on a dit qu'après l'enseignement biblique, on veut vraiment entrer dans un temps de prière, d'intercession, et selon la direction que le Saint-Esprit va nous donner pour que vraiment la vision que Dieu nous a donnée puisse s'accomplir finalement chez nous, que nous puissions réclamer toutes ces âmes qui ont été prédestinées à venir ici au Centre Pain de vie, qu'ils puissent être relâchés, ces âmes-là, et qu'elles puissent venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. On veut voir une croissance dans les semaines, dans les mois à venir. Et puis, pour cela, on a besoin de prier, on a besoin d'intercéder, on a besoin de réclamer. Et puis, on est en train d'étudier le livre des Actes des Apôtres, puis on va voir au cours des semaines qui vont suivre comment, lorsque Dieu a débuté l'Église, c'était une Église apostolique et prophétique, principalement fondée sur les apôtres et les prophètes. Et Dieu est en train de ramener son Église à ce que c'était au tout début. L'Église est à nouveau en train de redevenir apostolique et prophétique. Et à cause de cela, on parle beaucoup du domaine prophétique. Et dans cette assemblée, on est vraiment ouvert à ce que le Saint-Esprit fait à notre époque, dans notre génération. On est en train de monter une équipe de gens qui coulent dans le prophétique. Et vous allez voir dans le bulletin de dimanche prochain, on a modifié un petit peu le protocole prophétique pour qu'on puisse donner une grande liberté à tout le monde d'entrer dans la prophétie et l'opération des dons spirituels. Et ça va se faire en coopération avec l'équipe prophétique qu'on est en train de mettre sur pied, avec Claude Berthiaume qui va diriger l'équipe parce que son ministère est surtout celui de prophète. Et Sylvie Chagnon qui opère déjà depuis plusieurs années dans le domaine prophétique. Et notre frère Robert Laliberté aussi qui est en train de grandir dans le domaine prophétique. Et d'autres personnes qui vont s'ajouter au fur et à la mesure que le Saint-Esprit va les diriger. Et ce que je leur ai demandé, c'est le mercredi soir, de vraiment discerner la direction que le Saint-Esprit veut nous donner pour qu'après l'enseignement biblique, on puisse leur demander s'ils ont ressenti une direction particulière pour la prière, l'intercession, peu importe. Et s'ils n'ont rien de particulier, bien, on va aller avec moi ce que je pense faire après la prédication. Mais si notre équipe prophétique voit une certaine direction, qu'ils nous disent, par exemple, ce soir, il y a vraiment un esprit d'intercession dans la place pour les âmes perdues. On a besoin d'intercéder, de crier à Dieu pour que ces âmes-là viennent. C'est ce que nous allons faire. Peut-être un autre mercredi soir, ça va être plutôt relaxation dans la présence de Dieu, du soaking, comme on a déjà fait le mardi soir. Si c'est ce que l'Esprit nous demande de faire le mercredi, nous le ferons. Alléluia! Ce qu'on veut avoir, c'est la pensée de l'Esprit pour ne pas frapper à gauche et à droite, comme dit l'apôtre Paul, sans résultat, mais vraiment frapper dans le mille. Amen. Frapper dans le plein volonté de Dieu pour nous. Alors, attendez-vous le mercredi soir. Moi, j'ai l'impression que nos mercredis soirs, ça va devenir la fournaise qui va chauffer l'Église ici. Hallelujah. Et puis, le dimanche, on va voir les résultats du mercredi soir dans nos réunions du dimanche. Alors, attendez-vous à des choses nouvelles, des choses glorieuses que Dieu veut faire au milieu de nous. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Amen. Alors, on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, on veut te bénir encore une fois. Le privilège que nous avons de venir dans ta présence. Seigneur Dieu, nous demandons l'assistance de ton Saint-Esprit ce soir. L'onction précieuse de ton esprit sur le serviteur qui va annoncer ta parole. Seigneur, que cette parole tombe dans une bonne terre. Et comme tu nous as montré depuis quelques semaines, qu'elle puisse porter du bon fruit en nous. Seigneur, que les gens puissent voir le bon fruit qui émane de notre vie, qu'on n'a pas besoin d'avoir un autocollant sur nos automobiles pour dire qu'on est chrétien. Les gens le verront par les bons fruits qui sortent, qui émanent de notre vie. Alléluia! Dans le nom de Jésus, on a prié. Dirige-nous parfaitement ce soir. Amen et amen. Prenez votre Bible et nous tournons encore une fois dans le livre des Actes des Apôtres. On a lu la semaine dernière les quelques premiers versets. Le livre des Actes des Apôtres, écrit par Luc, qui était médecin et qui a suivi pendant une douzaine d'années aussi le ministère avec l'apôtre Paul. Et puis, il fait l'introduction à ce livre-là. On a expliqué que le livre est vraiment quelque chose de spécial, de particulier pour nous, parce que ça représente la première génération de chrétiens. Nous sommes la dernière génération de chrétiens. Et il y a certainement un grand parallèle entre ce livre-là et ce que nous vivons, et ce que nous allons vivre aujourd'hui dans notre génération. On a terminé la semaine dernière en expliquant que le livre des Actes des Apôtres nous parle de l'origine de l'Église, la fondation de l'Église. Et la deuxième chose qu'on va parler surtout, c'est aussi les actions du Saint-Esprit et l'importance que le Saint-Esprit avait dans l'Église primitive. Et je crois que le Saint-Esprit devrait avoir, sinon plus, d'importance aujourd'hui dans l'Église. Pouvez-vous dire amen? Et c'est ce que nous allons voir, comment le Seigneur Jésus-Christ lui-même a vraiment insisté pour que les premiers disciples ne fassent absolument rien, sauf prier, avant d'être baptisés du Saint-Esprit. Il leur a commandé, ordonné, de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient baptisés d'en haut. Puis on a expliqué la semaine dernière que l'Église, c'était un mystère caché de toutes les générations passées, mais maintenant révélé par le Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23, ça dit que l'Église, c'est un corps et nous sommes membres de ce corps-là. Donc, nous sommes appelés à fonctionner, pas seulement être assis pour écouter quelqu'un, mais on est appelés à fonctionner, chacun dans nos capacités, chacun dans nos appels et dans nos dons. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, ça dit que l'Église, c'est une maison spirituelle. Vous n'êtes plus des étrangers, des gens du dehors, ça nous dit, mais vous êtes des concitoyens, des gens de la maison de Dieu. L'Église, c'est la maison de Dieu. On devrait être à l'aise quand nous venons à l'Église, parce que c'est notre maison, c'est notre famille. Hallelujah! On ne devrait pas être jugé ici, on ne devrait pas être critiqué, on ne devrait pas être murmuré, mais c'est une famille. On devrait être entouré d'amour, de respect, d'avoir de l'honneur les uns pour les autres, avoir de l'amour ardent les uns pour les autres. Hallelujah! Parce que c'est la maison de Dieu. C'est notre famille, l'Église. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 21, ça dit que c'est une place d'adoration. Nous venons ici pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Ça dit, à lui soit la gloire dans l'Église. L'Église est l'endroit où on rend gloire à Dieu. La louange qui sort de nos lèvres. Alléluia! Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, c'est un centre d'entraînement pour le ministère. Ça dit qu'à donner les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue du ministère. C'est un centre d'entraînement, l'Église, où on reçoit une formation. Sixièmement, dans Éphésiens chapitre 1, toujours, verset 5, plutôt jusqu'à 32, ça dit que c'est un centre d'éducation. Puis on parle des responsabilités du mari, de l'épouse, des enfants, de l'employeur, des employés. Et il y a toute une série de versets qui sont vraiment formidables à étudier, puis c'est vraiment une éducation pour chacune de nos vies. Septièmement, c'est un centre de délivrance. Éphésiens chapitre 6, à compter du premier verset, parle qu'on n'est pas dans un combat contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités dans les lieux célestes, et ainsi de suite. Alors ça, c'est l'Église qui va prendre forme. Dans quelques instants, on va voir l'arrivée du Saint-Esprit dans la chambre haute, et c'est vraiment le départ, c'est vraiment le début, le commencement de la construction de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais juste avant, il s'est passé un événement de très haute importance sur lequel on ne veut pas trop s'attarder, mais juste le mentionner. Et on va lire des versets 4 ce soir jusqu'au verset 14 tout d'abord. Ça dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quand Louis II a traduit ce mot-là comme « il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem », mais le mot grec original, c'est le mot « parangelo » qui veut dire « commander » et non pas « recommander ». Parce que souvent, on peut prendre le mot « recommander » comme une option. On te recommande d'aller à Jérusalem et de ne pas quitter, mais c'est comme si tu n'y vas pas, c'est bon quand même. Mais le mot grec, ce n'est pas « recommander », c'est « commander ». C'est un ordre. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a dit « Jésus a donné ses ordres par le Saint-Esprit ». Ce mot-là, « parangelo », est utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament. Et à chaque fois, c'est un commandement que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ, plutôt, donne à son Église. Tout d'abord ici, il leur donne le commandement de ne pas quitter Jérusalem tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. La deuxième place, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 42, alors qu'il est écrit ceci, « Et Jésus nous a ordonné, commandé, de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Puis la troisième place où c'est écrit, c'est dans Actes, chapitre 17 et au verset 30, ça dit, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce. » Mais le mot « annonce », c'est « parangelo », ça veut dire « il ordonne à tous les hommes » et en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est un ordre que Dieu donne. Tout homme doit se repentir. Si vous voulez être sauvé, vous devez vous repentir. C'est un commandement du Seigneur Jésus. Puis au verset 6, ça dit, « Alors que les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit que ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, regardez, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le dérobant à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés sur le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dire, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? » Attention, ce sont les anges qui parlent. Et ils disent, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra. » Alléluia! Le même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de Saba. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jean. Tous d'un commun accord persévéraient, tous d'un commun accord. Cette expression-là revient souvent dans le livre des Actes des Apôtres. Pourquoi est-ce qu'ils ont tellement de puissance? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de signes, prodiges et miracles? Parce qu'ils sont d'un commun accord. Très important, très vital d'être d'un commun accord. Si nous sommes divisés entre nous, oubliez la manifestation de la puissance de Dieu. Nous ne l'aurons pas. Il faut d'abord être d'un parfait accord ensemble. Il faut avoir la même vision. On ne peut pas travailler ensemble si on n'a pas la même vision. Mais si nous avons la même vision, même si nous ne sommes pas parfaits les uns les autres, nous devons être d'un même accord, marcher ensemble, alléluia, et se protéger les uns les autres. Quelqu'un fait une erreur, ce n'est pas à nous d'aller publier l'erreur pour démolir la personne, c'est à nous de couvrir. La Bible dit que l'amour couvre tout. D'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Wow! Marie, mère de Jésus, qu'on appelait la Sainte Vierge. Elle était dans la chambre haute et elle persévérait d'un même accord. Hallelujah! Elle attendait le baptême du Saint-Esprit. Et remarquez que les 119 qui étaient avec elle, parce qu'il était à peu près 120, ne priaient pas Marie. Allô? Ils ne priaient pas Marie. Marie priait avec eux. Et tout le monde priait le Seigneur Jésus. Alléluia. Et ils attendaient le baptême du Saint-Esprit. Et 10 jours plus tard, comme nous savons, ils ont reçu le Saint-Esprit et Marie a été baptisée du Saint-Esprit. Woo! Alléluia! Vous n'avez pas pensé à ça, hein? C'est une vierge priant en langue. Mais c'est dans votre Bible. Elle était là avec les 120. Gloire à Dieu. Maintenant, ce qui s'est passé ici, juste avant le deuxième chapitre, où on va voir la venue du Saint-Esprit, justement sur 520 dans la chambre haute, il y a eu cet enlèvement secret, l'ascension secrète du Seigneur Jésus. Parce qu'il y a eu deux ascensions. Il y a eu une ascension secrète et 40 jours plus tard, une ascension publique. Ça, c'est l'ascension publique ici. Alors qu'ils sont sur le sommet de la montagne des Oliviers, ils l'ont tous vu monter au ciel, dans les airs, jusqu'à ce qu'une nuée le dérobe à leurs yeux. Donc, c'était public, ils l'ont vu. Mais avant, sur 40 jours plus tôt, après sa résurrection, alors qu'il était dans ce jardin adjacent à Golgotha, et qu'on pensait que quelqu'un était venu voler le corps de Jésus, et les femmes qui étaient venues tôt le matin pour embaumer le corps de Jésus, parce qu'elles ne croyaient pas à la résurrection, elles venaient embaumer un mort, se sont rendues compte qu'il n'y avait plus personne dans le tombeau, et que la pierre avait été roulée. Et elles ne savaient quoi penser. Elles étaient prêtes à abandonner, pensant que quelqu'un avait volé le corps de Jésus, ou peu importe, mais il y avait cette Marie qui n'était pas satisfaite de voir la tombe vide. Elle voulait savoir où était le corps de Jésus. Et elle a cherché. La Bible dit, si nous cherchons, nous trouverons. Alléluia. Si tu n'as pas trouvé, c'est parce que tu n'as pas cherché. Alléluia. Et elle a cherché Jésus. Et elle a vu cet homme, comme on a déjà prêché ici. Elle l'a vu de dos. Et il était habillé de cette grande robe blanche comme les jardiniers avaient à l'époque. Et elle s'est méprise. Elle a pensé que c'était un jardinier. Puis elle a dit, hey, « Hé, monsieur le jardinier, savez-vous où on a mis le corps de Jésus? » Et il s'est retourné et il a dit, « Marie. » Et en le voyant et en entendant le timbre de sa voix, elle l'a reconnu. Et elle a voulu le prendre, le toucher. Dans notre Bible, ça dit, « Ne me touche pas », mais le texte grec dit, « Ne me retiens pas ». Parce que c'est comme si Marie disait, « Je t'avais perdu, je t'ai retrouvé, tu ne me lâches plus » ou « Je te lâche plus ». Mais Jésus dit, « Ne me retiens pas, car je dois monter vers mon Dieu et votre Dieu. » Il ne parlait pas à ce moment-là de cet événement qu'on vient de lire ici. Ça, c'est l'ascension publique. Mais c'est cette même journée-là, après la résurrection, que Jésus devait monter secrètement dans le lieu secret, là-haut dans le ciel. Pourquoi? Vous le savez, on a expliqué, parce qu'il était le souverain sacrificateur qui devait maintenant, avec son propre sang, entrer dans le lieu très saint, là-haut dans le ciel, pour faire la purification du temple céleste. Alléluia! Et lorsque le souverain sacrificateur terrestre entrait une fois par année dans le lieu très saint, Il se dévêtait des deux premières épaisseurs de vêtements qu'il avait. Le vêtement que tout le monde voyait, c'était un vêtement somptueux, magnifique. Puis le deuxième vêtement aussi. Et lorsqu'il entrait une seule fois par année dans le lieu très saint avec le sang des animaux, il devait se départir de ses deux premières épaisseurs de vêtements. Et tout ce qui lui restait, c'est une grande robe blanche, la robe du souverain sacrificateur, symbole d'humilité, parce qu'il entrait dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Et c'est pourquoi Jésus avait cette grande robe blanche. Alléluia! Maintenant, où est-ce qu'il a pris sa grande robe blanche? Parce qu'il était nu, on lui a enlevé ses vêtements, on a tiré sa tunique au sort. Ce sont les anges que les femmes ont vus qui ont apporté la robe de Jésus, qui était prête depuis la fondation, et avant même la fondation du monde, parce qu'il devait devenir notre souverain sacrificateur. Alléluia! Il est monté la même journée, parce que nous lisons un petit peu plus tard ici dans l'évangile de Jean, c'est chapitre 20, verset 17, où Jésus lui dit « Ne me retiens pas », mais un peu plus loin, verset 19 et 20, ça dit « Le soir de ce jour ». C'est la même journée. Ça s'est fait rapidement. Il a récupéré son sang de façon miraculeuse, monté au ciel dans sa robe de souverain sacrificateur. Il a fait l'aspersion du sang sur le propitiatoire dans le lieu très saint là-haut dans le ciel. Et vers le soir, il est revenu. Et ça dit, le soir du même jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. Maintenant, nous apprenons dans Luc, chapitre 24, que cette journée-là, qu'il a fait l'ascension secrète et qu'il est revenu, il a d'abord été dans un petit village, le petit village d'Emmaüs. Vous vous souvenez des disciples qui retournaient vers Emmaüs? Il a fait route avec eux, ils lui ont demandé de venir prendre le repas du soir avec eux. Il a brisé le pain, il a pris la coupe, ils ont reconnu que c'était Jésus. Et au verset 39 du chapitre 24, Jésus leur dit, « Touchez-moi, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. » À Marie, la même journée, il dit « Ne me touche pas ». Mais le soir, lorsqu'il apparaît au milieu des onze, il dit « Touchez-moi et voyez un esprit, non ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai ». Alors, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Parce que le matin de la résurrection, il dit à un de ses disciples « Ne me touche pas ». Et le soir de cette même journée, il dit « Touchez-moi ». Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux événements? C'est qu'il est monté au ciel, a fait son ministère de souverain sacrificateur. Gloire à Dieu! Personne ne pouvait toucher le souverain sacrificateur lorsqu'il entrait dans le lieu très saint parce qu'il devenait impur. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est monté au ciel, il est revenu, il est apparu aux onze, puis il dit « Maintenant, vous pouvez me toucher. » Wouh! Gloire à Dieu! Puis on s'en va au chapitre 2, verset 1, puis là, c'est le plat de résistance du livre des Actes des Apôtres, parce que c'est la réception du Saint-Esprit. Bon, on a lu ces versets-là plusieurs fois le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient réunis dans la chambre haute. Soudainement, il y a un bruit, comme le bruit d'un vent impétueux qui s'est fait entendre, et puis la place fut remplie de la gloire de Dieu, puis des langues de feu se sont posées au-dessus des 120. Et il était exactement, comme on a enseigné également, 9 heures du matin. Et ça représentait le premier service dans le temple qui se faisait à l'hôtel des parfums. Vous vous souvenez de cet enseignement-là? Il y avait 2 services par jour, un à 9 heures le matin et un à 3 heures l'après-midi. Et l'hôtel des parfums représente la louange, le ministère de louange et d'adoration envers le Seigneur. Et le Saint-Esprit est arrivé exactement à l'heure même où les prêtres de l'Ancienne Alliance faisaient le premier service de la journée, juste quelques mètres plus loin, dans le temple, à l'autel des parfums, alors qu'on offrait ce parfum signifiant qu'on louait, qu'on adorait Dieu. Le Saint-Esprit arrive dans la chambre haute pour accomplir le service de l'autel des parfums. Et ce que ça nous enseigne, c'est que la réception du Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions entrer dans une nouvelle dimension dans notre relation avec Dieu et que nous puissions apprendre à le louer, à l'adorer et à venir aisément dans sa glorieuse présence. Alléluia! Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de louange, il n'y a pas de liberté non plus. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais vous êtes privilégiés de venir dans un endroit où vous avez la liberté de louer le Seigneur par le Saint-Esprit. Là où on ne croit pas au ministère du Saint-Esprit, à la personne du Saint-Esprit, il n'y a pas de liberté non plus pour louer le Seigneur. Mais nous avons la liberté, parce que là où est l'Esprit, là est la liberté. Alléluia! Et on ne devrait pas s'en priver. On devrait lever nos mains, oublier nos tracas de la journée, nos tracas de la semaine, et entrer dans les parvis de l'Éternel par la louange et l'adoration. C'est la thérapie du Seigneur. Vous ne serez pas capable d'être déprimé longtemps en louant le Seigneur. La meilleure pilule que tu peux avoir. La pilule L, louange. Alléluia. Amen. Wouh! Gloire à Jésus. Et c'est intéressant d'étudier les mots. Parce que les mots, des fois, ça veut dire beaucoup plus que simplement ce que nous lisons. Il y a 3 mots ici, 3 simples mots. Mais si on s'arrête à ces petits mots-là, ils sont vraiment révélateurs de ce que le Saint-Esprit est venu faire dans l'Église. Pourtant, n'oubliez pas, on assiste à la naissance de l'Église ici dans Acte 2.1. C'est comme un blueprint. C'est comme un dessin d'architecte. C'est comme si Dieu, attention, c'est comme si Dieu nous dit, voici comment je veux que ça marche, mon Église. La force motrice de mon Église, ce ne sont pas les programmes des hommes, ce ne sont pas le nombre de personnes dans l'Église, ce n'est pas le montant d'argent qu'ils ont dans leur compte de banque. La force motrice de mon Église, c'est mon Saint-Esprit. C'est par lui que je fonde l'Église et que je veux diriger mon Église. Alors, c'est important de bien comprendre ce qui est écrit ici. Ça dit, il vint du ciel un bruit. Comme, remarquez le mot, on va prendre le mot dans quelques instants, un bruit, comme celui d'un vent. Écrivez le mot vent. Impétueux, écrivez le mot impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, si vous relisez ce deuxième chapitre, ça va automatiquement, premièrement, vous faire penser à la dédicace du temple par Salomon dans 2e Chronique, le 5e chapitre, des versets 11 jusqu'à 14. Ça vous dit quelque chose, ça? Quand, d'un même accord, les prêtres se sont unis, qu'ils ont pris leur trompette, ils ont commencé à louer le Seigneur d'un même accord. Qu'est-ce qui est arrivé? La gloire, la nuée de gloire Shekinah qui suivait le peuple d'Israël dans le désert et qui n'était jamais réapparue, même pas durant le temps de la tente de David. Quelque chose, la génération de la tente de David. C'est une brèche prophétique dans l'Ancien Testament pour nous enseigner la liberté dans le Saint-Esprit, mais la nuée de gloire n'est pas revenue pendant ces 40 quelques années où David a placé l'arche de l'Éternel sur le sommet de la montagne de Sion. Mais lorsqu'ils ont fait la dédicace du temple à Jérusalem, la gloire Shekinah, la nuée de gloire lumineuse qui les accompagnait dans le désert, est revenue pour la première fois, a rempli la maison, a rempli le temple à un tel point qu'ils ne pouvaient même plus rester debout. Boum, 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 boum. Et c'était plein de fumée dans le temple de l'Éternel parce que la gloire Shekinah était descendue du ciel. Alléluia! Et la maison fut remplie de toute la gloire de l'Éternel. Maintenant ici, on a plus que la dédicace du temple parce que tout ce que Dieu a fait dans 2e Chronique, 5e chapitre, c'est que sa gloire a rempli la maison où ils étaient ou le temple où ils se tenaient. Mais avez-vous bien compris ce qu'on vient de lire? Ça dit ici dans le livre des Actes des Apôtres, « Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. » Mais en plus de ça, ça dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Pas seulement la maison a été remplie de la gloire de Dieu, mais ils furent tous remplis de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, est venu habiter à l'intérieur de l'être humain. Je devrais avoir la difficulté à vous garder assis. Alléluia! Pour la première fois, le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur d'un être humain. Deuxième chronique est merveilleux. On prêche souvent sur la gloire de Dieu qui a rempli le temple. Mais c'est tout ce que ça fait. Ça n'a pas été plus loin que remplir le temple. Ici, ça dit que la maison où ils étaient fut remplie de la gloire de Dieu, mais eux aussi furent remplis du Saint-Esprit. Alléluia! Wouh! Gloire à Dieu! Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Attends, regardons ces trois petits mots-là qui sont vraiment intéressants. Premièrement, il s'est fait un bruit. Le bruit s'est fait 10 jours après leur entrée dans la chambre haute. Comment est-ce qu'on sait ça? Parce que 50 jours entre la fête des prémices et la fête de la Pentecôte. La fête des prémices a été accomplie par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Tu as la Pâque, les pains sans levain et la fête des prémices. Jésus-Christ ressuscité la fête des prémices parce qu'il est devenu les prémices de la première résurrection. Donc, à partir du jour où il est ressuscité, jusqu'à la fête de la Pentecôte, nous savons, par Lévitique chapitre 23, le calendrier juif, calendrier de Dieu, qu'il y a 50 jours qui doivent s'écouler. Et on a lu, vous vous souvenez peut-être, premier chapitre, que Jésus a vécu combien de jours avec ses disciples? 40 jours, enseignant concernant les choses du royaume de Dieu. Et il y a eu l'ascension publique. Lorsqu'ils étaient sur le sommet de la montagne des Oliviers, on l'a lu il y a quelques instants, jusqu'à ce qu'une nuée l'enveloppe et disparaisse à leurs yeux. Donc, qu'est-ce qui reste comme jour après l'ascension publique de Jésus jusqu'à la fin de la Pentecôte, s'il y a 50 jours entre les deux événements, il y en a 40 découlés, il en reste 10. Et à la 10e journée, à 9 heures le matin, parce qu'écoutez, ils ont été là 10 jours, puis comme j'ai dit la semaine dernière, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était le baptême du Saint-Esprit. Comprenez-vous? Ils n'ont eu aucun message comme vous avez, comme j'ai eu, concernant le baptême du Saint-Esprit. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Ils ne savent pas qu'il y a des langues de feu qui vont venir. Ils ne savent pas qu'ils vont parler en d'autres langues. Mais ils persévèrent d'un commun accord dans la chambre haute. Et la 10e journée, à 9 heures du matin, ça fait un bruit. Le mot bruit est le mot écho. E-C-H-O. Facile à retenir, comme un écho. Et c'est le même mot qui est utilisé pour, dans Luc chapitre 4, verset 37, pour réputation. Quand ça dit que sa réputation ou sa renommée, la renommée de Jésus se répandit dans tous les lieux d'alentour. C'est le même mot, écho. C'est le même mot écho aussi qu'on retrouve dans Hébreux, chapitre 12, verset 18 et 19. Puis là, ça nous ramène à la montagne du Sinaï. Ça dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette. Le mot trompette, en ce cas-là, c'est le mot écho. Trompette, renommée, bruit, on a reçu l'écho de Dieu. Et ça nous ramène à la montagne du Sinaï. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la montagne du Sinaï? Quelle fête a-t-on célébré pour la première fois à la montagne du Sinaï, 50 jours après la sortie d'Égypte? La fête de la Pentecôte. C'était la première fois qu'on célébrait la fête de la Pentecôte. La première fois qu'on a célébré la Pentecôte, c'était lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. 50 jours plus tard, vous le lirez dans votre Bible, dans le livre d'Exode, ils sont rendus à la montagne du Sinaï et ils ont fêté pour la première fois la fête de la Pentecôte. Qu'est-ce qu'il y avait à la fête de la Pentecôte? Le feu de Dieu sur le sommet de la montagne. Qu'est-ce qu'il y avait dans la chambre haute? Le feu de Dieu, des langues de feu au-dessus de la tête des 120 qui étaient là. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait trompette, on a le même mot, le bruit, dans la chambre haute, écho. Ça veut dire que ça nous ramène, quand vous recevez, écoutez, ce que ça veut dire, c'est quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous avez une expérience aussi puissante que les Israélites qui étaient dans le désert au mont Sinaï et qui ont dit « Wouh! Dis à Dieu de plus parler! » Parce que c'est un spectacle terrifiant, tellement c'était fort, tellement c'était puissant. C'est la même terminologie, les mêmes mots, et ça nous ramène à la puissance du Sinaï et même plus parce que le Saint-Esprit maintenant, il est en nous. Vous avez l'écho de Dieu en vous. La réputation de Dieu. Wouh! Alléluia! Vous avez le bruit de trompette de Dieu en vous. Vous l'avez en vous, c'est le Saint-Esprit. Il s'est fait un bruit. Dans la chambre haute. Bruit comme un vent. Attends, ça c'est vraiment intéressant aussi. Parce que le mot vent, normalement, c'est le mot pneuma. Roi dans l'Ancien Testament pour l'hébreu, pneuma dans le grec. Mais Luc est un médecin. Vous vous souvenez, je vous ai dit ça. Et il a très bien compris la révélation que le Saint-Esprit lui donnait. Et normalement, il aurait dû traduire le mot « vent » par « pneuma », mais il n'a pas traduit le mot « vent » par « pneuma ». Il a traduit le mot « vent » par « pnoé », P-N-O-E, accent aigu, au lieu de « pneuma ». Parce que « pnoé », c'est un terme, un mot qu'on se sert dans l'aile des maternités à l'hôpital. Parce que le mot pneu, c'est lorsque le médecin vient de faire un accouchement et qu'il prend le petit bébé dans ses mains et qu'il lui donne une tape dans le dos pour que le bébé prenne son respire dans ce nouvel environnement qui est le monde. Avant, il était bien à l'intérieur du ventre de sa maman. Il n'avait pas besoin de respirer l'air de ce monde. Il respirait par sa maman. Il sort du ventre de la maman. Il est dans un autre monde, complètement une autre dimension. Et le médecin fait il prend son respire. Pnoé, c'est un souffle de vie d'un nouveau commencement. Alléluia! Et le bruit qui se fait, c'est le bruit d'un vent pnoé, une tape que le Saint-Esprit vient de vous donner pour vous donner le souffle de vie. pour vous donner un souffle d'un nouveau commencement, parce que vous arrivez dans une autre dimension, la dimension de l'Esprit de Dieu. Wow! N'est-ce pas formidable? C'est pas juste pneuma, un vent ou un esprit ordinaire, non. Un terme de maternité, dans l'aile de maternité à l'hôpital. Le Seigneur vous a donné la tape que vous aviez besoin dans le dos. En recevant le baptême du Saint-Esprit, vous recevez un souffle de vie qui vous lance dans un monde nouveau, le monde de l'Esprit de Dieu. Wow! Alléluia! Comme dans Ézéchiel chapitre 37, vous vous souvenez de la vision des ossements? Dieu dit à son prophète, parle aux ossements. Il ne faut pas que tu sois trop capricieux pour être prophète. Puis il faut que tu te fous un peu de l'opinion des autres, parce que ça a l'air vraiment fou. Parler à un cimetière où c'est plein d'ossements. Il dit, parle à ces autres, qu'ils prennent vie. Et le prophète s'est exécuté. Mais là, Dieu dit, maintenant, parle à l'esprit et appelle l'esprit des 80. Et lorsqu'Ézéchiel s'est exécuté, il a parlé à l'esprit, il a dit, esprit, viens des 80, donne la vie à ces ossements, même si c'était des ossements très secs, la parole qui a été donnée, la parole prophétique, a communiqué un souffle de vie à ces ossements-là. Et à chaque fois que nous prophétisons, nous sommes en train de souffler la vie dans quelque chose. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur veut que son Église revienne, comme c'était au début, dans la dimension apostolique et prophétique, et qu'il y ait des paroles de vie qui sortent de notre bouche. Et non pas des paroles juste de raisonnement humain ou des paroles qui tuent, des paroles qui blessent. Wow! Nous sommes appelés à prophétiser, à communiquer la vie à ce qui est mort, à communiquer le souffle de vie. C'est pour ça que Paul dit la prophétie, oubliez ça, c'est pas pour le jugement, c'est même pas pour reprendre les gens, c'est pour exhorter, encourager, communiquer la vie, parle à ce qui est mort, et dit mort, tu dois vivre, parce que c'est la parole de vie que nous communiquons. Alléluia. Et finalement, le troisième mot, impétueux. Si vous allez dans 2 Pierre, le premier chapitre, verset 21, le mot grec, c'est le mot phéro, P-H-E accent aigu R-O, pour impétueux. Et ça dit dans 2 Pierre, le même mot revient, le mot phéro, ça dit, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé. » Le mot grec est phéro, impétueux. C'est poussé de façon impétueuse par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, le vent, souvenez-vous de ça, le bruit, premièrement, c'est écho, ça vous ramène au Sinaï. C'est la même puissance, le feu, la trompette, le tremblement. Je suis certain qu'ils ont tremblé dans la chambre haute. Il y a sûrement eu des manifestations peu habituelles parce qu'ils ont été accusés de prendre du vin doux. Alors, s'ils sont assis bien calmes et puis ils font juste parler ensemble, tu ne peux pas les accuser d'être ivres. S'ils ont été accusés d'être ivres, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais sûrement, il y avait de l'air des gens ivres, parce qu'ils ont accusé d'être ivres. Amen. Si tu dis, tu n'as pas beaucoup de cheveux, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux. J'ai remarqué. Amen. Si je dis, vous êtes ivres, c'est parce que j'ai dû remarquer quelque chose dans votre comportement qui me fait penser que vous êtes ivres. Alors, il s'est passé des choses comme la manifestation de la puissance sur le sommet de la montagne du Sinaï. Puis, il y a le mot « vent », qui est un terme de maternité. Le Seigneur vous a donné la tape dans le dos pour vous communiquer le souffle de vie dans la dimension de l'esprit. Et finalement, ce n'est pas juste un souffle, une petite tape que vous avez reçue, mais c'est un vent impétueux, féro. C'est-à-dire que vous êtes poussé par le Saint-Esprit. Comme Siméon, vous vous souvenez de Siméon à Jérusalem, qui avait reçu une promesse de la part de Dieu qu'il ne mourrait pas avant de voir la venue du Messie. Et puis, bon, ça n'a pas été imprimé dans les journaux que Jésus venait de naître à Bethléem. Ça n'a pas été communiqué à la radio. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de satellite. Il n'y a pas beaucoup de moyens de communication, mais le Saint-Esprit était là. Et ça dit qu'il s'est senti féroce, poussé par le Saint-Esprit. Et on vient de comprendre, c'est pas juste, peut-être, c'est fort. Un vent impétueux, un vent féroce, poussé. Je ressens dans moi qu'il faut que j'aille au temple. Et parce que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, combien ne sont pas baptisés du Saint-Esprit ce soir dans cette salle? Vous n'êtes pas baptisés, vous ne parlez pas en d'autres langues. Bon, bien, c'est votre soir. On va faire un appel dans quelques minutes, puis il faut que vous veniez recevoir le baptême du Saint-Esprit, parce que vous allez recevoir la tape du grand médecin là-haut dans le ciel. Et vous allez dire, wow, je prends un respire nouveau, je ne respire plus comme d'habitude, je respire dans le domaine de l'Esprit. Alléluia. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut nous apprendre. Il veut que nous discernions comment il nous pousse, comment l'impétueux, le vent impétueux va nous diriger, va nous pousser. Vous allez ressentir. Si on apprend à marcher avec le Saint-Esprit, à un moment donné, vous allez savoir que c'est le Saint-Esprit qui vous pousse. Un vent impétueux. Alléluia. Jusqu'ici, ça va bien? Maintenant, voici la cerise sur le gâteau. Des langues de feu apparurent séparées des unes des autres, se posant sur chacun d'eux, furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, le premier signe physique, c'est le parler en langue. Et ça n'a pas changé. C'est encore vrai dans les années 2000. Ce n'est pas le plus grand signe, ce n'est pas le seul signe, mais c'est le premier signe. C'est l'évidence que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Tant que vous ne parlez pas en langue, il y a encore des morceaux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Baptiser veut dire immerger. C'est comme lorsqu'on baptise quelqu'un, on l'immerge dans l'eau et on le cale dans l'eau. Amen. On ne vous laisse pas là, heureusement, on vous ramène. Quelques-uns auraient dû laisser là. Non. Et c'est la même chose quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous êtes immergé dans le Saint-Esprit et ça va déborder par le parler en langue. Et tant que vous ne parlez pas en langue, le membre le plus difficile à dompter chez vous n'est pas encore baptisé, c'est votre langue. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle Dieu a fait ça comme ça. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun homme qui peut dompter la langue. On peut dompter des animaux sauvages, des grands navires sont dirigés par un petit gouvernail, mais la langue, dit Jean, qui peut la dompter? C'est comme si la réponse est personne, sauf le Saint-Esprit. Et voyez-vous le privilège que nous avons? On est baptisé du Saint-Esprit, alléluia, et quand la tentation vient de parler contre mon frère, au lieu de parler dans ma langue, je dis « Kurramashakalamandurabashatalamahata ». Alléluia. Je viens de dompter ma langue. Amen. Mais le diable est rusé. Et le plus grand combat, à part du fait que beaucoup de chrétiens ne reconnaissent pas que le Saint-Esprit est une personne, la plus grande lutte, c'est contre les langues. Le diable n'aime pas les langues. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'accomplissent lorsque nous parlons en langue. Pourquoi pensez-vous que Dieu a choisi ce signe-là? Comment ont-ils su qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit? Comment ont-ils su qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit? Parce qu'ils sont mis à parler en d'autres langues. Comment Pierre a-t-il su que Corneille et sa maisonnée venaient de recevoir le Saint-Esprit? Car, dit-il, nous les entendons parler en d'autres langues. Amen. Et le diable, soit qu'il ridiculise les langues, ou qu'il fait croire aux gens que c'est du diable, les langues, c'est diabolique. Si c'est diabolique, les langues, pourquoi est-ce que vous ne parliez pas en langue avant d'être sauvé? Amen. Ou bien, s'il n'a pas réussi à vous retenir, puis vous avez été vraiment baptisé du Saint-Esprit, il vous parle en langue, il va trouver un moyen, il va faire tous ses efforts, du moins, pour trouver un moyen pour que vous vous taisiez. Parce qu'il sait la puissance des langues. Parce que lorsque vous parlez en langue, vous dites des mystères à Dieu en esprit. L'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue il se fortifie lui-même. Pourquoi est-ce qu'on a tellement de chrétiens faibles aujourd'hui? Parce qu'il y a très peu de chrétiens qui prient en langue. Et Paul dit, c'est un moyen de vous exercer spirituellement. Même la science moderne le prouve. J'écoutais notre frère Chuck Flynn qui parlait sur une cassette concernant un médecin à Los Angeles qui a prouvé scientifiquement que, bien sûr, on a, vous savez, deux côtés à notre cerveau. Le côté gauche qui est le côté logique, rationnel, puis le côté droit du cerveau qui est le côté créateur, artistique. Et c'est prouvé que lorsque vous parlez en langue, vous êtes en train de provoquer le côté droit de votre cerveau, le côté créateur de votre cerveau. Parce que ça dépasse l'entendement ou le raisonnement humain. Parce que le cerveau, il ne participe pas dans le parler en langue. Parce que c'est votre esprit qui parle en langue. C'est pourquoi Paul dit, je peux prier par l'intelligence, mais je peux prier par l'esprit. Je peux chanter par l'intelligence, mais je peux chanter aussi par l'esprit, deux côtés du cerveau. Quand je prie dans ma langue, je prie du côté gauche avec mon intelligence. Je forme mes mots, je forme des phrases pour que ça fasse du sens. Lorsque je prie en langue, c'est mon côté droit qui est actif parce que mon côté droit, ça lui échappe. Mon cerveau, il ne sait pas comment ça marche parce que c'est spirituel, ça vient de l'esprit. Et c'est prouvé scientifiquement que tu provoques le côté créateur de ton cerveau. Wow! Tu parles en langue beaucoup? Vous allez faire des belles inventions. Et vous allez créer des choses. Juste parler en langue change l'atmosphère d'un endroit où vous vous trouvez. Mettez à parler en langue pendant 5-10 minutes, je vous garantis qu'il y a une gang de démons qui viennent de sortir. Ils sont rendus sur le boulevard Maricourt. Amen! C'est prouvé en plus scientifiquement. Ou de l'autre bord de la voie ferrée. Encore mieux, hein? Prouvez scientifiquement que lorsque vous parlez en langue, votre cerveau dégage des endorphines. Vous savez ce que c'est, les endorphines? Ça crée un bien-être. C'est comme s'il y a un relax qui se fait dans votre corps. C'est des hormones qui sont dégagées par le cerveau qui procurent un calme et un apaisement. Et c'est prouvé scientifiquement. Lorsque vous parlez en langue, vous dégagez ces hormones-là dans votre système. Alors, tous les gens qui sont stressés, les gens qui sont inquiets, au lieu d'appeler toutes sortes de gens pour qu'ils prient pour vous, le cerveau se met à dégager ces hormones-là, et puis le calme revient. C'est prouvé scientifiquement. Tu sais, la Bible ne donne pas tous les détails dans toutes les Écritures, parce qu'on aurait besoin de 100 000 Bibles comme celle-là. Mais quand Paul dit « vous vous bâtissez vous-même », vous êtes en train de vous bâtir lorsque vous parlez en langue, même si on n'a pas tous les détails, mais on en apprend à cause des développements dans le domaine scientifique, on devrait croire simplement la Bible. Dit « wow, si la Bible le dit, c'est parce que c'est vrai, gloire à Dieu, et je vais ouvrir ma bouche, je vais me bâtir moi-même, m'édifier dans le Seigneur Jésus-Christ par le miracle du parler en langue. » Chaque fois que vous parlez en langue, c'est un miracle de toute façon. Et c'est un moyen de communication exceptionnel avec Dieu. Ouh, c'est bon, hein? Saint-Esprit parle l'Église de cette façon-là. Soudainement, un bruit comme un vent impétueux qui nous ramène à la puissance du Sinaï, qui est un terme de l'aile de maternité à l'hôpital. Le grand médecin nous a donné une tape dans le dos. On prend un respire nouveau, un respire dans le domaine de l'esprit. On va respirer l'air de l'esprit. Et c'est impétueux parce qu'il va y avoir des poussées qui vont venir. L'esprit va dire, fais ceci. Voilà, ne fais pas ça. Dis ceci. Et tu vas parler avec la puissance prophétique qui communique la vie autour de toi. Woo! Au lieu de semer la mort autour de toi, la tristesse, tu vas semer la vie autour de toi parce que tu es rempli du Saint-Esprit. On se lève en terminant ce soir. Wow! Hallelujah! Mais c'est bon. Gloire à Dieu. Le Seigneur connaît son affaire. Il a bien parti son Église. Alléluia. S'il y a des problèmes dans les églises, pas la faute du constructeur. Il n'y a pas un défaut de construction. Il n'y a pas un vice caché dans la construction de l'Église. C'était bien parti. Tu es parti par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Et à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant, on va voir maintenant pourquoi le Seigneur a tellement insisté pour qu'on reçoive cette puissance-là, le Saint-Esprit. Pourquoi doit-on recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit? Et c'est merveilleux. Puis on va voir au cours de cet enseignement dans le livre des Actes des Apôtres, la puissance de Dieu en action. On va voir les prophètes agir, on va voir les apôtres agir. Comment ils circulaient, comment ils étaient attachés à une église centrale. L'église est partout dans le livre des Actes des Apôtres. Tu ne peux pas y échapper. C'est toujours avec un lieu d'attache en quelque part. Même si tu es un grand apôtre comme Paul, il revient à Antioche, c'est son église d'attache, puis rencontre de son ministère. Les frères, les sœurs se réjouissent avec lui de voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu qui est manifestée dans son ministère. Puis il faut apprendre ces choses-là parce que c'est le blueprint de Dieu. Et si on ne revient pas au modèle que Dieu nous a donné, on fait à notre tête. On fait selon ce que les hommes nous disent. Bon, on a des organisations, mais ça n'a pas vraiment la puissance que c'est supposé avoir. Il faut revenir à la base, il faut revenir à la repentance, revenir à la puissance du baptême du Saint-Esprit, revenir à la prière, revenir à l'intercession, revenir au témoignage, gloire à Dieu. C'est simple ces choses-là, mais si on les délaisse pour les choses compliquées de notre génération, on perd le meilleur de la vie chrétienne. Si on garde les choses de base que le Seigneur nous a données dans le livre des Actes des Apôtres, c'est le contraire. Il y a une multiplication qui va venir. Les chrétiens vont devenir forts. Souvent, on est d'une génération où les chrétiens sont tellement faibles. Un rien. C'est pas normal. On est supposé d'être enraciné dans la parole de Dieu, rempli de la puissance du Saint-Esprit. On est supposé d'être comme Popeye. Amen. Mais qu'est-ce qu'on voit des chrétiens modernes? Ils sont dans les combats. Hey, les Thessaloniciens, savez-vous combien qui ont eu de temps, l'apôtre Paul, l'enseignement? 3 semaines. 3 semaines. Puis au bout de 3 semaines, la persécution est venue tellement forte, ils ont dit à Paul, t'es mieux de partir parce qu'ils vont t'enlever la vie, c'est sûr. Et Paul est parti avec Timothée et ses compagnons et il a laissé plusieurs centaines de Thessaloniciens, hommes et femmes, à eux-mêmes. Et puis là, ils continuent leur voyage missionnaire. Ils vont à Bérée, puis ils vont se rendre à Éphèse. Et finalement, ils sont dans la région d'Éphèse et d'Athènes. Puis Paul, il y a toujours la pensée des Thessaloniciens qu'il a laissé derrière lui après juste 3 semaines de ministère. Des petits bébés dans le Seigneur. Puis il se dit, oh, j'espère qu'ils sont encore là, qu'ils n'ont pas renié le Seigneur, qu'ils ont tenu ferme malgré les persécutions. Puis à un moment donné, dès qu'il y a l'opportunité, il envoie Timothée à Thessalonique pour voir s'ils sont encore là. Et Timothée revient faire un rapport à Paul. Il dit, Paul, tu n'as pas besoin de t'en faire. Il dit, ils sont fermes et ils sont forts dans la foi parce qu'ils n'ont pas reçu ta parole comme étant la parole d'un homme, mais comme étant la parole de Dieu comme elle est véritablement. Wouh! 3 semaines, puis ils n'ont plus de pasteurs, ils n'ont plus d'évangélistes, ils n'ont plus d'apôtres. Ils sont laissés à eux-mêmes, mais ils sont fermes dans la parole qui a été prêchée pendant 3 semaines. Puis il y a eu beaucoup de persécutions contre eux. Il y a eu même des attaques contre Paul qui a fondé l'Église. Puis ils ont forgé des lettres comme étant écrites de Paul, disant, oubliez l'affaire, l'Église est déjà enlevée, puis vous n'êtes pas enlevé. Wow, c'est dur ça pour des petits bébés nouveaux chrétiens de 3 semaines. Mais ils ont cru à la parole qui avait été prêchée par Paul. Ça veut dire que soit qu'ils ont pris des notes ou ils l'ont gardé dans leur cœur, puis malgré la persécution, ils ont tenu ferme. Puis nous, on a des réunions, télévision, radio, cassette, vidéo, DVD, CD, décédé, il est mort. Et à la moindre petite opposition, « Oh, je ne sais pas si je vais retourner à l'église, parce que là... » J'ai entendu quelqu'un cette semaine qui me disait qu'il ne voulait plus lire la Bible parce que là, il s'attendait d'avoir quelque chose du Seigneur, puis il l'a pas eu. Puis là, il dit, non, moi, là, c'est fini. Hey, c'est quoi ça? Savez-vous pourquoi on est faible de même? Parce qu'on n'est pas enraciné dans la parole de Dieu et on n'opère pas dans la puissance du Saint-Esprit. Si on commence à s'enraciner dans la parole de Dieu et on opère dans la puissance du Saint-Esprit, mais la plupart des apôtres ont été des martyrs ou jetés dans la prison. Pas des belles prisons comme aujourd'hui, des trous où tu as des rats, tu as de la vermine, des fers à leurs pieds. Ils chantaient des cantiques. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter des cantiques dans une belle ambiance comme nous avons? Alléluia. Venons ce soir. Et puis, je ne sais pas si notre équipe prophétique a quelque chose de particulier, une direction particulière. Sylvie, ou Robert, ou Claude.
Oui. Alléluia, on est béni. Amen. Tantôt, lorsque Mario portait la parole, je pensais justement à Moïse. Ça dit que Moïse, il faisait peindre le troupeau. Je crois qu'on a besoin d'enseignement de la parole de Dieu, puis on bénit le Seigneur pour l'enseignement que nous avons. On a besoin d'enseignants, on a besoin des apôtres, des prophètes, des pasteurs, de tous les ministères. Mais pendant que Moïse faisait peindre le troupeau, ça dit qu'il est venu à la montagne de Dieu. Quand il est venu à la montagne de Dieu, vous savez ce qui est arrivé, ça dit qu'il y avait un buisson ardent. La pensée que le Seigneur a placée sur mon cœur, c'est réellement de venir ce soir à la montagne du Seigneur. De venir à la montagne de Dieu. Puis je crois qu'il va y avoir un buisson qui va s'allumer et que la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie et que Dieu, Hallelujah. Je suis en train de faire mes altères, moi, là. Faites-vous-en pas. Mais venez à la montagne de Dieu. J'entends un chant déjà dans le passé de venir à la montagne du Seigneur. C'est viens à la montagne du Seigneur. Souviens, Sylvie. Et puis, je crois que Dieu va allumer un feu nouveau. Je crois que c'est depuis le début de la réunion. C'est dans mon cœur. C'est là, même aujourd'hui, pendant que je méditais ce matin, que je lisais ma parole, il y a réellement quoi dans mon cœur. Puis c'est dans l'Exode, dans le chapitre 3, vous pourrez le lire à soir à la maison. Mais approchez-vous de la montagne de Dieu. On a vu le berger de paître le troupeau. On s'avance, on vient à la montagne. Puis certainement l'ange de l'Éternel qui va se manifester aussi. Ça dit qu'il a vu l'ange de l'Éternel dans une flamme de feu, puis le buisson était là, est allumé. Puis Dieu, il a dit, enlève tes souliers, tu es sur une terre sainte. Je crois qu'il y a des choses qui vont s'enlever automatiquement de notre vie qu'on n'a pas besoin. Hallelujah. Hallelujah, God. Je crois qu'il est temps d'enlever des choses dans notre vie. De dire, Seigneur, je vais faire un nettoyage, je vais faire un clean-up, Seigneur, je vais m'approcher de la montagne. Et puis, si tu viens avec un cœur disposé comme ça, Dieu va te restaurer, il va te redonner la vie, Dieu, il va te faire ressusciter, il va te donner ce que ton cœur désire, il va te donner ton premier amour peut-être que tu as oublié quelque part. Puis cet amour-là va faire que tu n'auras plus besoin d'avoir peur du pharaon. Tu vas pouvoir faire face à tous les pharaons qui sont là à l'extérieur puis qui t'ont écrasé maintes et maintes fois. Tu n'auras pas peur, justement, de tous les magiciens de dessus qui sont bêtes autour du pharaon aussi, comme on connaît l'histoire. Bon, on va pouvoir s'avancer la tête haute puis dire, je viens pas dans mon nom, mais je viens dans le nom de l'Éternel des armées. Hallelujah! Je viens pas combattre avec une épée, avec quoi que ce soit, comme David a dit, mais je viens au nom de l'Éternel des armées. Ce soir, si on s'approche dans un cœur disposé comme ça, moi, le premier, je veux m'approcher devant le Seigneur pour devenir à la montagne ici. De dire, Seigneur, je vais prendre un temps devant toi. Il est temps de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et je crois qu'on devrait s'avancer ensemble. Pasteur Mario.
Gloire à Dieu. Alors venons, peut-être les musiciens peuvent revenir aussi, puis entrer dans l'onction musicale. Gloire à Dieu. Venons, cherchons la face du Seigneur. Venons sur la montagne de l'Éternel. Alléluia.